267. On peut résumer les moyens de reconnaître la qualité des esprits dans les principes suivants. Premièrement, il n'y a pas d'autre critérium pour discerner la valeur des esprits que le bon sens. Toute formule donnée à cet effet par les esprits eux-mêmes est absurde et ne peut émaner d'esprits supérieurs. Deuxièmement, on juge les esprits à leur langage et à leurs actions. Les actions des esprits sont les sentiments qu'ils inspirent et les conseils qu'ils donnent. Troisièmement, étant admis que les bons esprits ne peuvent dire et faire que le bien, tout ce qui est mal ne peut venir d'un bon esprit. Quatrièmement, les esprits supérieurs ont un langage toujours digne, noble, élevé, sans mélange d'aucune trivialité. Ils disent tout avec simplicité et modestie, ne se vantent jamais, ne font jamais parade de leur savoir ni de leur position parmi les autres. Celui des esprits inférieurs ou vulgaires a toujours quelques reflets des passions humaines. Toute expression qui sent la bassesse, la suffisance, l'arrogance, la forfanterie, l'acrimonie, est un indice caractéristique d'infériorité ou de supercherie si l'esprit se présente sous un nom respectable et vénéré. Cinquièmement, il ne faut pas juger les esprits sur la forme matérielle et la correction de leur style, mais en sonder le sens intime, scruter leurs paroles, les peser froidement, mûrement et sans prévention. Tout écart de logique, de raison et de sagesse ne peut laisser de doute sur leur origine, quel que soit le nom dont ils s'affublent l'esprit. Voir 224. Sixièmement, le langage des esprits élevés est toujours identique, sinon pour la forme, du moins pour le fond. Les pensées sont les mêmes, quel que soit le temps et le lieu. Elles peuvent être plus ou moins développées selon les circonstances, les besoins et les facilités de communiquer. Mais elles ne seront pas contradictoires. Si deux communications portant le même nom sont en opposition l'une avec l'autre, l'une des deux est évidemment apocryphe, et la véritable sera celle où rien ne dément le caractère connu du personnage. Entre deux communications signées, par exemple, de Saint-Vincent de Paul, dont l'une prêcherait l'union et la charité, et l'autre tendrait à semer la discorde, il n'est personne de sensé qui pût se méprendre. Septièmement, les bons esprits ne disent que ce qu'ils savent. Ils se taisent ou confessent leur ignorance sur ce qu'ils ne savent pas. Les mauvais parlent de tout avec assurance, sans se soucier de la vérité. Toute hérésie scientifique notoire, tout principe qui choque le bon sens, montre la fraude si l'esprit se donne pour un esprit éclairé. Huitièmement, on reconnaît encore les esprits légers à la facilité avec laquelle ils prédisent l'avenir et précisent des faits matériels qu'il ne nous est pas donné de connaître. Les bons esprits peuvent faire pressentir les choses futures lorsque cette connaissance peut être utile, mais ne précise jamais de date. Toute annonce d'événements à époque fixe est l'indice d'une mystification. Neuvièmement, les esprits supérieurs s'expriment simplement, sans prolixité. Leur style est concis, sans exclure la poésie des idées et des expressions. Clair, intelligible pour tous, et ne demande pas d'effort pour être compris. Ils ont l'art de dire beaucoup de choses en peu de mots, parce que chaque parole a sa portée. Les esprits inférieurs ou faux savants cachent sous l'enflure et l'emphase le vide des pensées. Leur langage est souvent prétentieux, ridicule ou obscur à force de vouloir paraître profond. Dixièmement, les bons esprits ne commandent jamais, ils ne s'imposent pas, ils conseillent, et, si on ne les écoute pas, ils se retirent. Les mauvais sont impétueux, ils donnent des ordres, veulent être obéis et restent quand même. Tout esprit qui s'impose trahit son origine. Ils sont exclusifs et absolus dans leur opinion et prétendent avoir seuls le privilège de la vérité. Ils exigent une croyance aveugle et ne font point appel à la raison, parce qu'ils savent que la raison les démasquerait. Onzièmement, les bons esprits ne flattent point. Ils approuvent quand on fait bien, mais toujours avec réserve. Les mauvais donnent des éloges exagérés, stimulent l'orgueil et la vanité tout en prêchant l'humilité, et cherchent à exalter l'importance personnelle de ceux qu'ils veulent capter. Douzièmement, les esprits supérieurs sont au-dessus des puérilités de la forme en toute chose. Les esprits vulgaires seuls peuvent attacher de l'importance à des détails mesquins, incompatibles avec des idées véritablement élevées. Toute prescription méticuleuse est un signe certain d'infériorité et de supercherie de la part d'un esprit qui prend un nom imposant. Treizièmement, il faut se défier des noms bizarres et ridicules que prennent certains esprits qui veulent en imposer à la crédulité. Il serait souverainement absurde de prendre ces noms au sérieux. Quatorzièmement, il faut également se défier des esprits qui se présentent trop facilement sous des noms extrêmement vénérés et n'accepter leurs paroles qu'avec la plus grande réserve. C'est là surtout qu'un contrôle sévère est indispensable, car c'est souvent un masque qu'ils prennent pour faire croire à de prétendues relations intimes avec les esprits hors ligne. Par ce moyen, ils flattent la vanité du médium et en profitent pour l'induire souvent à des démarches regrettables ou ridicules. Quinzièmement, les bons esprits sont très scrupuleux sur les démarches qu'ils peuvent conseiller. Elles n'ont jamais dans tous les cas qu'un but sérieux et éminemment utile. On doit donc regarder comme suspectes toutes celles qui n'auraient pas ce caractère ou seraient condamnées par la raison et mûrement réfléchir avant de les entreprendre car on s'exposerait à des mystifications désagréables. Seizièmement, on reconnaît aussi les bons esprits à leur prudente réserve sur toutes les choses qui peuvent compromettre. Ils répugnent à dévoiler le mal. Les esprits légers ou malveillants se plaisent à le faire ressortir. Tandis que les bons cherchent à adoucir les torts et prêchent l'indulgence, les mauvais les exagèrent et soufflent la zizanie par des insinuations perfides. Dix-septièmement, les bons esprits ne prescrivent que le bien. Toute maxime, tout conseil qui n'est pas strictement conforme à la pure charité évangélique ne peut être l'œuvre de bons esprits. Dix-huitièmement, les bons esprits ne conseillent jamais que des choses parfaitement rationnelles. Toute recommandation qui s'écarterait de la droite ligne du bon sens ou des lois immuables de la nature accuse un esprit borné et par conséquent peu digne de confiance. Dix-neuvièmement, les esprits mauvais ou simplement imparfaits se trahissent encore par des signes matériels auxquels on ne saurait se méprendre. Leur action sur le médium est quelquefois violente et provoque chez celui-ci des mouvements brusques et saccadés, une agitation fébrile et convulsive qui tranche avec le calme et la douceur des bons esprits. Vingtièmement, les esprits imparfaits profitent souvent des moyens de communication dont ils disposent pour donner de perfides conseils. Ils excitent la défiance et l'animosité contre ceux qui leur sont antipathiques. Ceux qui peuvent démasquer leur imposture sont surtout l'objet de leur animadversion. Les hommes faibles sont leur point de mire pour les induire au mal, employant tour à tour les sophismes, les sarcasmes, les injures et jusqu'aux signes matériels de leur puissance occulte pour mieux convaincre. Ils tâchent de les détourner du sentier de la vérité. Vingt-et-unièmement, l'esprit des hommes qui ont eu sur la terre une préoccupation unique, matérielle ou morale, s'ils ne sont pas dégagés de l'influence de la matière, sont encore sous l'empire des idées terrestres et portent avec eux une partie des préjugés, des prédilections et même des manies qu'ils avaient ici-bas. c'est ce qu'il est aisé de reconnaître à leur langage. 22. Les connaissances dont certains esprits se parent souvent avec une sorte d'ostentation ne sont pas un signe de leur supériorité. L'inaltérable pureté des sentiments moraux est à cet égard la véritable pierre de touche. 23. Il ne suffit pas d'interroger un esprit pour connaître la vérité. Il faut avant tout savoir à qui l'on s'adresse, car les esprits inférieurs, ignorant eux-mêmes, traitent avec frivolité les questions les plus sérieuses. Il ne suffit pas non plus qu'un esprit ait été un grand homme sur la terre pour avoir dans le monde spirit la souveraine science. La vertu seule peut, en le purifiant, le rapprocher de Dieu et étendre ses connaissances. 24. De la part des esprits supérieurs, la plaisanterie est souvent fine et piquante, mais n'est jamais triviale. Chez les esprits railleurs, qui ne sont pas grossiers, la satire mordante est souvent pleine d'à-propos. 25. En étudiant avec soin le caractère des esprits qui se présentent, surtout au point de vue moral, on reconnaîtra leur nature et le degré de confiance qu'on peut leur accorder. Le bon sens ne saurait tromper. 26. Pour juger les esprits comme pour juger les hommes, il faut d'abord savoir se juger soi-même. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui prennent leur opinion personnelle pour mesure exclusive du bon et du mauvais, du vrai et du faux. Tout ce qui contredit leur manière de voir, leurs idées, le système qu'ils ont conçu ou adopté est mauvais à leurs yeux. De tels gens manquent évidemment de la première qualité pour une saine appréciation, la rectitude du jugement. Mais ils ne s'en doutent pas. C'est le défaut sur lequel on se fait le plus illusion. Toutes ces instructions découlent de l'expérience et de l'enseignement donné par les esprits. Nous les complétons par les réponses mêmes données par eux sur les points les plus importants. 268. Question sur la nature et l'identité des esprits. Question 1. À quel signe peut-on reconnaître la supériorité ou l'infériorité des esprits? Réponse. À leur langage, comme vous distinguez un étourdi d'un homme sensé. Nous l'avons déjà dit, les esprits supérieurs ne se contredisent jamais et ne disent que de bonnes choses. Ils ne veulent que le bien, c'est leur préoccupation. Les esprits inférieurs sont encore sous l'empire des idées matérielles. Leurs discours se ressentent de leur ignorance et de leur imperfection. Il n'est donné qu'aux esprits supérieurs de connaître toutes choses et de les juger sans passion. Question 2. La science chez un esprit est-elle toujours un signe certain de son élévation? Réponse. Non, car s'il est encore sous l'influence de la matière, il peut avoir vos vices et vos préjugés. Il y a des gens qui sont dans ce monde excessivement jaloux et orgueilleux. Croyez-vous que dès qu'il le quitte, il perde ses défauts? Il reste après le départ d'ici, surtout à ceux qui ont eu des passions bien tranchées, une sorte d'atmosphère qui les enveloppe et leur laisse toutes ces mauvaises choses. Ces esprits, mis imparfaits, sont plus à redouter que les mauvais esprits, parce que la plupart réunissent l'astuce et l'orgueil à l'intelligence. Par leur prétendu savoir, ils en imposent aux gens simples et aux ignorants qui acceptent sans contrôle leurs théories absurdes et mensongères. Quoique ces théories ne puissent prévaloir contre la vérité, elles n'en font pas moins un mal momentané, car elles entravent la marche du spiritisme, et les médiums s'aveuglent volontiers sur le mérite de ce qui leur est communiqué. C'est là ce qui demande une très grande étude de la part des spirites éclairés et des médiums. C'est à distinguer le vrai du faux qu'il faut apporter toute son attention. Question 3. Beaucoup d'esprits protecteurs se désignent sous des noms de saints ou de personnages connus. Que doit-on croire à ce sujet? Réponse. Tous les noms des saints et des personnages connus ne suffiraient pas pour fournir un protecteur à chaque homme. Parmi les esprits, il y en a peu qui aient un nom connu sur la terre. C'est pourquoi, très souvent, il ne s'ordonne pas, mais la plupart du temps vous voulez un nom. Alors, pour vous satisfaire, ils prennent celui d'un homme que vous connaissez et que vous respectez. Question 4. Ce nom d'emprunt ne peut-il être considéré comme une fraude? Réponse. Ce serait une fraude de la part d'un mauvais esprit qui voudrait abuser. Mais quand c'est pour le bien, Dieu permet qu'il en soit ainsi entre esprits du même ordre, parce qu'il y a entre eux solidarité et similitude de pensée. Question 5. Ainsi, quand un esprit protecteur se dit être Saint Paul, par exemple, il n'est pas certain que ce soit l'esprit même ou l'âme de l'apôtre de ce nom. Réponse. Nullement, car vous trouvez des milliers de personnes à qui il a été dit que leur ange gardien est Saint Paul ou tout autre. Mais que vous importe si l'esprit qui vous protège est aussi élevé que Saint Paul? Je vous l'ai dit, il vous faut un nom. Ils en prennent un pour se faire appeler et reconnaître, comme vous prenez les noms de baptême pour vous distinguer des autres membres de votre famille. Ils peuvent tout aussi bien prendre ceux des archanges Raphaël, Saint-Michel, etc., sans que cela tire à conséquence. Du reste, plus un esprit est élevé, plus son rayonnement est multiple. Croyez donc qu'un esprit protecteur d'un ordre supérieur peut avoir sous sa tutelle des centaines d'incarnés. Chez vous, sur la terre, vous avez des notaires qui se chargent des affaires de 100 et 200 familles. Quoi voudriez-vous que nous fussions, spirituellement parlant, moins aptes à la direction morale des hommes que ceux-là à la direction matérielle de leur intérêt? Question 6. Pourquoi les esprits qui se communiquent prennent-ils souvent le nom des saints? Réponse. Ils s'identifient avec les habitudes de ceux à qui ils parlent et prennent les noms qui sont de nature à faire sur l'homme le plus d'impression en raison de ses croyances. Question 7. Certains esprits supérieurs que l'on évoque viennent-ils toujours en personne ou bien, comme le croient quelques-uns, ne viennent-ils que par mandataires chargés de transmettre leurs pensées? Réponse. Pourquoi ne viendraient-ils pas en personne s'ils le peuvent? Mais si l'esprit ne peut venir, ce sera forcément un mandataire. Question 8. Le mandataire est-il toujours suffisamment éclairé pour répondre comme le ferait l'esprit qui l'envoie? Réponse. Les esprits supérieurs savent à qui ils confient le soin de les remplacer. D'ailleurs, plus les esprits sont élevés, plus ils se confondent dans une pensée commune, de telle sorte que pour eux, la personnalité est une chose indifférente et il doit en être de même pour vous. Croyez-vous donc qu'il n'y ait dans le monde des esprits supérieurs que ceux que vous avez connus sur la terre capables de vous instruire? Vous êtes tellement porté à vous prendre pour les types de l'univers que vous croyez toujours que hors de votre monde, il n'y a plus rien. Vous ressemblez vraiment à ces sauvages qui ne sont pas sortis de leur île et croient que le monde ne va pas au-delà. Question 9. Nous comprenons qu'il en soit ainsi quand il s'agit d'un enseignement sérieux. Mais comment des esprits élevés permettent-ils à des esprits de bas étage de se parer de noms respectables pour induire en erreur par des maximes souvent perverses? Réponse. Ce n'est point avec leur permission qu'ils le font. Cela n'arrive-t-il pas aussi parmi vous? Ceux qui trompent ainsi en seront punis, croyez-le bien, et leur punition sera proportionnée à la gravité de l'imposture. D'ailleurs, si vous n'étiez pas imparfait, vous n'auriez autour de vous que de bons esprits, et si vous êtes trompé, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Dieu permet qu'il en soit ainsi pour éprouver votre persévérance et votre jugement, et vous apprendre à distinguer la vérité de l'erreur. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas assez élevé, et vous avez encore besoin des leçons de l'expérience. Question 10. Des esprits peu avancés, mais animés de bonnes intentions et du désir de progresser, ne sont-ils pas quelquefois délégués pour remplacer un esprit supérieur afin de leur fournir l'occasion de s'exercer à l'enseignement? Réponse. Jamais dans les grands centres. Je veux dire les centres sérieux et pour un enseignement général. Ceux qui s'y présentent le font toujours de leur propre chef, et, comme vous le dites, pour s'exercer. C'est pourquoi leur communication, quoique bonne, porte toujours des traces de leur infériorité. Quand ils sont délégués, ce n'est que pour les communications peu importantes et celles qu'on peut appeler personnelles. Question 11. Les communications spirites ridicules sont quelquefois entremêlées de très bonnes maximes. Comment concilier cette anomalie qui semblerait indiquer la présence simultanée de bons et de mauvais esprits? Réponse. Les esprits mauvais ou légers se mêlent aussi de faire des sentences sans trop en voir la portée ou la signification. Tous ceux qui en font parmi vous, sont-ils des hommes supérieurs? Non. Les bons et les mauvais esprits ne frayent pas ensemble. C'est à l'uniformité constante des bonnes communications que vous reconnaîtrez la présence des bons esprits. Question 12. Les esprits qui induisent en erreur le font-ils toujours sciemment? Réponse. Non. Il y a des esprits bons, mais ignorants et qui peuvent se tromper de bonne foi. Quand ils ont la conscience de leur insuffisance, ils en conviennent et ne disent que ce qu'ils savent. Question 13. Lorsqu'un esprit fait une fausse communication, la fait-il toujours avec une intention malveillante? Réponse. Non. Si c'est un esprit léger, il s'amuse à mystifier et n'a pas d'autre but. Question 14. Puisque certains esprits peuvent tromper par leur langage, peuvent-ils aussi, aux yeux d'un médium voyant, prendre une fausse apparence? Réponse. Cela se fait, mais plus difficilement. Dans tous les cas, cela n'a jamais lieu que dans un but que les mauvais esprits ne connaissent pas eux-mêmes. Ils servent d'instrument pour donner une leçon. Le médium voyant peut voir des esprits légers et menteurs comme d'autres les entendent ou écrivent sous leur influence. Les esprits légers peuvent profiter de cette disposition pour l'abuser par des apparences trompeuses. Cela dépend des qualités de son esprit à lui. Question 15. Pour n'être pas abusé, suffit-il d'être animé de bonnes intentions? Et les hommes parfaitement sérieux, qui ne mêlent à leurs études aucun sentiment de vaine curiosité, sont-ils aussi exposés à être trompés? Réponse. Moins que d'autres, évidemment. Mais l'homme a toujours quelques travers qui attirent les esprits moqueurs. Il se croit fort, et souvent il ne l'est pas. Il doit donc se défier de la faiblesse qui naît de l'orgueil et des préjugés. On ne tient pas assez compte de ces deux causes dont les esprits profitent. En flattant les manies, ils sont sûrs de réussir. Question 16. Pourquoi Dieu permet-il que de mauvais esprits se communiquent et disent de mauvaises choses? Réponse. Même dans ce qui est le plus mal, il y a un enseignement. C'est à vous de savoir l'en tirer. Il faut bien qu'il y ait des communications de toutes sortes pour vous apprendre à distinguer les bons esprits des mauvais et vous servir de miroir à vous-même. Question 17. Les esprits peuvent-ils, au moyen de communications écrites, inspirer d'injustes défiances contre certaines personnes et brouiller des amis? Réponse. Des esprits pervers et jaloux peuvent faire en mal tout ce que font les hommes. C'est pourquoi il faut y prendre garde. Les esprits supérieurs sont toujours prudents et réservés quand ils ont à blâmer. Ils ne disent pas de mal. Ils avertissent avec ménagement. S'ils veulent que, dans leur intérêt, deux personnes cessent de se voir, ils feront naître des incidents qui les sépareront d'une manière naturelle. Un langage propre à semer le trouble et la défiance est toujours le fait d'un mauvais esprit, quel que soit le nom dont il se pare. Ainsi, n'accueillez qu'avec circonspection le mal qu'un esprit peut dire de l'un de vous. Surtout quand un bon esprit vous en a dit du bien, et défiez-vous aussi de vous-même et de vos propres préventions. Dans les communications des esprits, ne prenez que ce qu'il y a de beau, de grand, de rationnel, et ce que votre conscience approuve. Question 18. Par la facilité avec laquelle les mauvais esprits se mêlent aux communications, il paraît qu'on n'est jamais certain d'avoir la vérité. Réponse. Si. puisque vous avez un jugement pour les apprécier. À la lecture d'une lettre, vous savez bien reconnaître si c'est un goujat ou un homme bien élevé, un sot ou un savant qui vous écrit. Pourquoi ne pourriez-vous le faire quand ce sont des esprits qui vous écrivent? Si vous recevez une lettre d'un ami éloigné, qui vous prouve qu'elle est bien de lui? Son écriture, direz-vous. Mais n'y a-t-il pas des faussaires qui imitent toutes les écritures, des fripons qui peuvent connaître vos affaires? Cependant, il est des signes auxquels vous ne vous méprendrez pas. Il en est de même des esprits. Figurez-vous donc que c'est un ami qui vous écrit, ou que vous lisez l'ouvrage d'un écrivain, et jugez par les mêmes moyens. Question 19. Les esprits supérieurs pourraient-ils empêcher les mauvais esprits de prendre des faux noms? Réponse. Certainement, ils le peuvent. Mais plus les esprits sont mauvais, plus ils sont entêtés. Et souvent, ils résistent aux injonctions. Il faut bien aussi que vous sachiez qu'il est des personnes auxquelles les esprits supérieurs s'intéressent plus qu'à d'autres. Et quand ils le jugent nécessaire, ils savent les préserver de la tête du mensonge. Contre ces personnes, les esprits trompeurs sont impuissants. Question 20. Quel est le motif de cette partialité? Réponse. Ce n'est point de la partialité, c'est de la justice. Les bons esprits s'intéressent à ceux qui mettent leur avis à profit et travaillent sérieusement à leur propre amélioration. Ceux-là sont leurs préférés et ils les secondent. Mais ils s'inquiètent peu de ceux avec lesquels ils perdent leur temps en belles paroles. Question 21. Pourquoi Dieu permet-il aux esprits de commettre le sacrilège de prendre faussement des noms vénérés? Réponse. Vous pourriez demander aussi pourquoi Dieu permet aux hommes de mentir et de blasphémer. Les esprits ainsi que les hommes ont leur libre arbitre dans le bien comme dans le mal. Mais ni aux uns ni aux autres la justice de Dieu ne fera défaut. Question 22. Y a-t-il des formules efficaces pour chasser les esprits trompeurs? Réponse. Formule et matière. Bonne pensée vers Dieu vaut mieux. Question 23. Certains esprits ont dit avoir des signes graphiques inimitables, sortes d'emblèmes qui peuvent les faire reconnaître et constater leur identité. Cela est-il vrai? Réponse. Les esprits supérieurs n'ont d'autres signes pour se faire reconnaître que la supériorité de leurs idées et de leur langage. Tous les esprits peuvent imiter un signe matériel. Quant aux esprits inférieurs, ils se trahissent de tant de manières qu'il faut être aveugle pour se laisser abuser. Question 24. Les esprits trompeurs ne peuvent-ils aussi contrefaire la pensée? Réponse. Ils contrefont la pensée comme les décors de théâtre contrefont la nature. Question 25. Il paraît qu'il est ainsi toujours facile de découvrir la fraude par une étude attentive. Réponse. N'en doutez pas. Les esprits ne trompent que ceux qui se laissent tromper. Mais il faut avoir des yeux de marchand de diamants pour distinguer la vraie pierre de la fausse. Or, celui qui ne sait pas distinguer la pierre fine de la fausse s'adresse au lapidaire. Question 26. Il y a des gens qui se laissent séduire par un langage emphatique, qui se payent de mots plus que d'idées, qui prennent même des idées fausses et vulgaires pour des idées sublimes. Comment ces gens-là, qui ne sont pas même aptes à juger les œuvres des hommes, peuvent-ils juger celles des esprits? Réponse. Quand ces personnes ont assez de modestie pour reconnaître leurs insuffisances, elles ne s'en rapportent pas à elles-mêmes. Quand par l'orgueil elles se croient plus capables qu'elles ne le sont, elles portent la peine de leur sotte vanité. Les esprits trompeurs savent bien à qui ils s'adressent. Il y a des gens simples et peu instruits, plus difficiles à abuser que d'autres qui ont de l'esprit et du savoir. En flattant les passions, ils font de l'homme tout ce qu'ils veulent. Question 27. Dans l'écriture, les mauvais esprits se trahissent-ils quelquefois par des signes matériels involontaires? Réponse. Les habiles ne le font pas. Les maladroits se fourvoient. tout signe inutile et puéril est un indice certain d'infériorité. Les esprits élevés ne font rien d'inutile. Question 28. Beaucoup de médiums reconnaissent les bons et les mauvais esprits à l'impression agréable ou pénible qu'ils ressentent à leur approche. Nous demandons si l'impression désagréable, l'agitation convulsive, le malaise en un mot, sont toujours des indices de la mauvaise nature des esprits qui se manifestent. Réponse. Le médium éprouve les sensations de l'état dans lequel se trouve l'esprit qui vient à lui. Quand l'esprit est heureux, il est tranquille, léger, posé. Quand il est malheureux, il est agité, fébrile, et cette agitation passe naturellement dans le système nerveux du médium. Du reste, c'est ainsi qu'est l'homme sur la terre. Celui qui est bon est calme et tranquille, celui qui est méchant est sans cesse agité. Remarque. Il est des médiums d'une impressionnabilité nerveuse plus ou moins grande. C'est pourquoi l'agitation ne saurait être regardée comme une règle absolue. Il faut ici, comme en toute chose, tenir compte des circonstances. Le caractère pénible et désagréable de l'impression est un effet de contraste, car si l'esprit du médium sympathise avec le mauvais esprit qui se manifeste, il en sera peu ou point affecté. Du reste, il ne faut pas confondre la rapidité de l'écriture, qui tient à l'extrême flexibilité de certains médiums, avec l'agitation convulsive que les médiums les plus lents peuvent éprouver au contact des esprits imparfaits.